qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est
la cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler?
90% du temps était dans sa chambre, sur son lit ou.
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Cour d'honneur, saison 4, épisode 2. C'est quoi être étudiant à la Sorbonne? La bande de Cour d'honneur répond à cette question un samedi sur deux sur Radio Campus Paris et un mercredi sur deux sur Radio Sorbonne Université. Le magazine d'infos et de culture qui fait le tour de la Sorbonne et de ses campus. Bienvenue, on t'accueille dans notre amphi. On est là pour toi qui galère à trouver ta salle, toi qui galère à trouver une meuf, toi qui galère à trouver un bar. On connaît tous les meilleurs plans de la rive gauche, les histoires qui se racontent au Crous, la meilleure façon de gruger le métro et toutes les terrasses abritées pour échapper à ce soleil qui souffle sur la capitale. Ensemble, pendant une heure, on rejoue la vie étudiante, la radio de la plus vieille fac de France sur la première radio étudiante de la capitale. Pendant une heure, on te promet de la culture, bien sûr.
Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
Mais aussi du love pour les plus chanceux.
Ça va les enfants? Ça fait longtemps que je les ai pas vus.
Oh, j'en ai marre en ce moment des enfants. Michael, lui, ça va toujours. Et Kevin, oh, écoute. Oh, je n'en doute plus, il ne cherche qu'à me contrarier. Tu sais ce qu'il m'a fait mercredi? Une otite.
Et du style, bien sûr, avant tout dans cette émission.
Moi, j'avais pris plein de notes en venant dans votre formation. Non, j'aurais pas le temps, je le sais déjà que j'ai pas le temps. Ouais. J'ai juste le temps de me mettre en colère.
Vous voulez commencer maintenant?
Non, c'est le système de l'information française qui fait comme ça. J'aurai le temps, une minute, de m'énerver. Juste de m'énerver et de paraître pour un petit merdeux, un petit jeune de plus qui fout la pagaille partout.
Et bien sûr, une équipe bien déter pour vous servir avec toute la bande qui nous a rejoint ce soir. Bonsoir Chirine qui est avec nous.
Bonsoir, bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les meilleurs lieux de révision.
Il y a également Maria Florencia, une ancienne désormais. Salut Maria.
Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais vous présenter une carte postale qu'on a tournée à Place de la Sorbonne.
Et il y a également Lavinia, bien sûr, fidèle au poste. Salut Lavinia.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un portrait du jeune Michel Foucault en tant qu'étudiant.
Et avec nous, nous avons bien sûr Swan. Salut Swan, merci d'être avec nous.
Hello, hello. Eh bien, avec grand plaisir, je vais vous faire un super édito ce soir pour nous présenter toutes nos chroniqueuses parce que pour l'instant, vous ne nous connaissez absolument pas.
Et une petite nouvelle qui rejoint la bande, Alice est avec nous. Bonsoir Alice.
Bonsoir, alors aujourd'hui, moi je vais vous présenter mes 5 adresses préférées à Saint-Ouen pour... tous les élèves du campus Clignancourt, on vous oublie pas, tous ceux qui sont curieux d'aller y passer un week-end.
Voilà, vous êtes ici chez vous, prenez place, le décollage est imminent. Et du haut de l'amphi, au fond des chambres de bonne, bienvenue dans la cour d'honneur de la Sorbonne. Et pour bien commencer avant tout, on commence par se mettre dans l'ambiance avec la carte blanche, l'édito de RSU.
Faire peur aux bourgeois, eh bien c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, c'est vraiment facile.
Carte blanche.
Et c'est Swan qui ouvre le bal. Swan, tu nous as constitué une présentation pour nous introduire en fait à toutes ces nouvelles voix inconnues qui participent désormais à Cour d'honneur cette saison. Alors, eh bien, d'où viennent les membres de l'équipe, Swan?
Alors, je souhaitais vous présenter notre petite équipe de chroniqueurs, chroniqueuses en majorité, qui est bien inconnue pour l'instant. On marque clairement les petits différents accents qui parlent au micro, les différents timbres aussi, et c'est évidemment lié à nos différentes origines. Et je trouve assez passionnant le principe de chemin de vie. C'est le fait qu'on a tous des trajectoires différentes qui vont influencer notre parcours, de telle sorte qu'on se retrouve là maintenant, ensemble, à cour d'honneur. Enfin, surtout à la Sorbonne, à Paris, dans tel appartement ou telle chambre universitaire. à faire ses études spécifiques ou à ce métier. C'est fou de se dire que quand on retrace nos petits chemins, aussi multiples et opposés soient-ils, bah, ils aboutissent ici. Alors pour ce faire, on n'a donc pas eu la même vie, hein, définitivement pas, parce que certaines viennent d'un autre pays carrément, d'autres viennent de plein d'autres pays, rien que ça. Et il y en a qui ont sillonné la France avant d'arriver à la capitale Paname, et il y en a qui sont restés au même endroit tout le temps jusqu'au déménagement. Alors on va commencer par Maria, qui nous vient tout droit d'Italie et qui a eu la chance de voyager pas mal. Là, c'est la bestie d'Erasmus, en partant donc de Padoue, près de Venise, à Liverpool, en passant par Lyon. Et puis comme son empreinte carbone n'était pas assez élevée et que bien sûr la meilleure ville du monde lui manquait, elle est revenue sur Paris. Alors elle devait d'abord rester jusqu'à juin et en fait elle est toujours là pour notre plus grand bonheur avec son accent chantant dans nos oreilles. Puis avec Lavinia et Alice, elles ont été plusieurs à habiter dans des foyers et cités universitaires, que leur porte-monnaie en remercie clairement, mais c'est aussi leur vie sociale parce qu'il n'y a rien de mieux pour se faire de bons potes. Alice s'y connaît bien en internat parce qu'elle a fait son collège et lycée à la Légion d'honneur, donc elle a porté des jupes à carreaux jusqu'aux genoux pendant 7 ans quoi, et elle a frôlé Paris sans jamais y habiter, en vivant à Levallois, puis Orléans, puis Amiens, puis Orléans encore. La ville de rêve hein, apparemment. Chirine, elle aussi, elle a grandi dans la couronne, mais comme Clichy ça claquait pas des masses, elle a préféré faire ses études à Clignancourt. Voilà, le meilleur tiercard. Puis pour son master, elle a quand même voulu aller à l'Institut catholique de Paris, histoire de se rassurer un peu quand même. Elle et Thomas, ils ont tous les deux des origines espagnoles, ça claque, mais ils vivent quand même en France, parce qu'il ne faut pas trop claquer. Puis Thomas a grandi dans le Vaucluse et a fait ses premières années littéraires à Nîmes et à Montpellier. Mais bon, comme il y a trop de soleil dans le sud, il s'est ramené lui et son accent en capitale et il a décidé d'être journaliste sous la pluie. D'ailleurs, il en tombe pas mal en ce moment. C'est Lavinia qui s'y colle, parce que justement, les travées en vélo du 5e à Clichy, elle connaît. Hein. Question de vie avant Paris, après être née en Roumanie, elle a sillonné l'Europe à la recherche de la scolarité parfaite entre l'Italie, le Luxembourg, la banlieue parisienne. Puis évidemment, elle s'est fait choper par Paris et la philo. Hein. Beaucoup ont donc parcouru la France avant de vivre ici, tandis que d'autres sont restés sur leur pied-à-terre, leur terre natale, le bord de mer pour ma part, pas très terreux, la Vendée. Parce que j'aime pas les transitions, du coup je suis passée de commune à capitale, je me suis bien marrée, et voilà, le champ est devenu le périph et l'arbre l'immeuble, j'ai pas capté. Donc voilà, j'étais sur la côte à marée haute, maintenant je mange des entrecôtes à Prio. Mais nos soucis, on est plusieurs à accumuler les jobs ici, à servir des clients ou des enfants, et surtout ici à cour d'honneur, à parler à des enfants qui ont un peu grandi. Vous, nos meilleurs clients et auditeurs, les étudiants de la Sorbonne.
Merci, merci Swan. Vous écoutez RSU sur Radio Campus Paris, il est 18h passé de 7 minutes. N'oubliez pas que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Et maintenant, place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
L'équipe de cour d'honneur lance un grand débat passionné qui agite la capitale depuis des siècles. De la rive droite ou de la rive gauche de Paris, laquelle est la meilleure ? La gauche, historiquement plus tranquille hein, et nouvellement bourgeoise. La droite, elle, c'est le cœur du tumulte parisien. Elle héberge les quartiers populaires, mais aussi le Triangle d'Or, les lieux touristiques de la capitale et les lieux de pouvoir. Et surtout, quand on est étudiant, eh bien, laquelle on préfère ? Eh bien, nous leur avons posé la question.
Alors moi, je suis dans le 14e, je suis rive gauche.
Donc rive gauche.
Mais on bouge dans le 18, donc on bouge rive droite. Dans la rive gauche, surtout dans le 14e, c'est un dortoir.
Bon, la rive gauche est plus intellectuelle que la rive droite, même si évidemment la rive droite est plus... active.
Bon là, je serais pas aussi tranché sur l'opposition rive droite rive gauche. Après, je pense que ça se joue plus en termes d'arrondissement que de rive droite rive gauche. Après, bien sûr, il y a des tendances et la rive droite, oui, j'ai plus tendance à aller sortir rive droite et notamment dans le 11e ou 18e.
Ah oui, team rive droite. Pourquoi j'aime le 20e ? Parce qu'il y a une belle dynamique associative, il y a une belle mixité sociale, parce qu'on arrive aussi à avoir des prix un peu plus abordables aussi au niveau des courses, au niveau de la vie culturelle. Par exemple, il y a beaucoup de prix étudiants pour aller regarder une petite pièce de théâtre ou aller au cinéma. Et... Alors, avantages et inconvénients. Quand j'habitais rive gauche, j'habitais dans le 5e et c'est cher. C'est cher, quoi. Alors que maintenant que j'habite rive droite dans le 11e, quasi 20e, il y a beaucoup plus de solidarité, je trouve. Et ça, c'est... Pour moi, c'est vraiment le point majeur.
D'un point de vue esthétique, on va dire team rive gauche, parce que la rive gauche est sympa. Il y a le 5e, il y a les quais, il y a vers ici, vers la Sorbonne, c'est beau et tout. Mais après, d'un point de vue politique, je me dis, rive droite, c'est quand même pas mal. Hein. Il y a le quartier populaire et tout. Ça bouge, il y a plein de trucs qui se passent. Et voilà. Puis il n'y a pas tous les bourgeois. C'est pas trop mal aussi.
Et alors, vous, autour de la table, on est plutôt team rive gauche ou plutôt team rive droite ? Swan ?
Alors, moi, j'habite à Saint-Ouen, donc, donc j'avoue que c'est plutôt le nord de Paris qui me connaît, mais c'est vrai que la rive gauche, il y a tellement plus de, je sais pas, de culture, de vie, les bars sont plus animés, il y a plus d'étudiants aussi, donc on se sent un peu plus à l'aise peut-être, donc je dirais rive gauche.
Ouais, le quartier latin, c'est aussi un lieu, une région de Paris qui vous plaît. Chérine, je te vois hocher
oui,
la tête.
Bah, je suis exactement du même avis que Swan, c'est très mignon, il y a plein de librairies, il y a toutes les grandes écoles parisiennes, donc c'est très étudiantin. Voilà tout.
Non, ça n'est pas trop musée, un peu à ciel ouvert, très figé, la rive gauche, en particulier le quartier latin.
Bon, il y a les quais, il y a aussi des boîtes, hein, donc ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de bars, c'est très jeune. Je préfère quand même la rive gauche.
Moi, pas du tout.
Mariam.
Alors, moi, j'ai vécu dans le 14e, autour de la cité universitaire, du coup. La
donc
cité,
le 14e, rive gauche.
Exactement. Et c'est pour cela que j'ai remarqué qu'il n'y avait vraiment rien à faire. Il n'y avait rien à faire autour. Heureusement, du coup, que j'étais dans une grande résidence étudiante. Parce que sinon, je ne serais plus là, en fait. Parce qu'il n'y avait rien à faire. Il y avait juste un bar devant avec un karaoké le mercredi soir. Et puis sinon, le 14e, c'est quand même beaucoup quartier résidentiel aussi, famille, tout ça. Mais il n'y avait même pas ça autour de moi, en fait. Et du coup, j'habite à Belleville, à peu près. À
donc, rive droite.
Oui, tout à fait. Et c'est trop cool.
Toi, la Vigna, tu préfères l'ambiance résidentielle et calme de la rive gauche ou plutôt plus animée de la rive droite?
Alors, comme j'ai de la chance au niveau du budget, comme j'ai réussi à rentrer dans un foyer étudiant qui permet à de jeunes filles qui n'ont pas forcément les moyens d'habiter dans le 5e, bah forcément je préfère le 5e si on peut se l'offrir. Rien que pour avoir une vue sur le jardin du Luxembourg, je crois que c'est un luxe en soi. On a les bibliothèques, on a les cinémas, on a la Sorbonne-Mer qui est pas loin si on habite dans le 5e. Je trouve que c'est une ambiance en fait avec laquelle la rive droite ne peut pas égaler. Voilà.
Alice, pour terminer, toi.
Alors moi, je sors beaucoup plus souvent dans la rive droite de Paris. Mais comme j'habite à la rive gauche, on va défendre la rive gauche. Moi, je suis dans le 13e et j'adore mon quartier. Voilà. Je trouve que c'est un quartier très nature-peinture. Les gens sont sympas. Il y a des super maisons. Il y a des vraies maisons avec des petits jardins, du lierre. Faut s'y perdre. Il y a aussi un hangar avec des brocantes. C'est super sympa. Il y a le Nouvel An chinois. Et sinon, il y a aussi rive gauche, le quartier latin, qui est un de mes quartiers préférés. Donc voilà, même si tout est plutôt concentré rive droite, moi je dis rive gauche. Voilà.
Bon bah voilà, le débat en tout cas fait rage entre les chroniqueuses de cours d'honneur. Vous, sur les réseaux sociaux, vous nous interpellez sur Radio Sorbonne Université et vous nous dites si vous êtes plutôt team rive gauche, team rive droite, si c'est historique ou si c'est par choix. Vous venez nous donner votre avis, puisque dans cours d'honneur sur Radio Sorbonne et Radio Campus, on parle de la vie étudiante et de l'actualité des étudiants. Et justement, comment nous habitons Paris? Eh bien, ils sont nombreux à avoir chanté la capitale, Paname, Paris, Ripa, capitale de la douleur, ville lumière. On se croirait au cinéma, eux aussi chantent le spleen de Paris en octobre, c'est Paris de l'impératrice.
J'entends les murmures de la ville que la nuit a mise à nu. Le fracas des automobiles qui filent, juste un instant sais-tu. Dans la brume électrique, elle dort sans dessous dessus. Et son corps encore inconnu laisse entrevoir son cœur qui cogne un peu plus fort. Toutes ces couleurs qui courent encore. Est-il trop tôt? Est-il trop tard? C'est comme les filles qu'on embrasse, mais qu'on ne voit jamais de face. Le refrain sans accord des sirènes du soir. Comme ça, Paris, tu n'es pas comme au cinéma. s'accrochent par milliers sur ces grands boulevards. Signe octambule, femme de l'aurore, femme de la nuit, multicolore, mais des matins restent noirs. C'est comme une fille qu'on embrasse, mais qu'on ne voit jamais de face. Le refrain sans accord des sirènes du soir.
Paris de l'impératrice sur Cour d'honneur dans Radio Sorbonne et sur les ondes aussi sur Radio Campus Paris. Justement, vous aussi, comment est-ce que vous habitez Paris? Bien, vous pouvez nous le dire et puis nous, on répond à cette question une semaine sur deux. C'est quoi être étudiant à la Sorbonne? On parle des activités des étudiants et de leurs enseignants.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Et nous accueillons ce soir notre nouvelle invitée, interviewée par toute la bande des chroniqueuses de Cour d'honneur, Chérine.
Oui Thomas, ce soir nous accueillons dans le studio de Radio Sorbonne François Lefebvre. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire grecque à Sorbonne Université. Dans 15 jours, les États-Unis vont élire leur 47e président. Si Donald Trump l'emporte, il pourrait couper l'aide américaine à l'Ukraine. Est-il déjà arrivé qu'un royaume grec menacé dépende à ce point d'une autre puissance?
Bien d'abord, bonsoir. Oui, tout ce que nous voyons aujourd'hui s'est passé avec des points de ressemblance tout à fait étonnants dans l'Antiquité. J'ai l'habitude de dire que c'est de l'histoire antique, mais pas de l'histoire ancienne. Raison pour laquelle il m'arrive d'ailleurs d'écrire parfois dans la presse quotidienne ou mensuelle pour faire se proposer ce genre de rapprochement.
Le candidat républicain à la Maison-Blanche apparaît comme un ovni politique pour nombre d'Européens. Est-ce qu'il existe des modèles ou des références similaires issues du monde grec qui pourraient correspondre à Donald Trump? Finalement, est-ce que Donald Trump est une créature surgie de l'histoire ou bien est-il héritier d'une certaine tradition d'un politique iconoclaste?
Alors, c'est une question à laquelle je réfléchissais justement hier soir devant les débats de LCI, et j'aurais un peu de mal à en trouver pour l'histoire grecque. Je pensais à un homme athénien du 5e siècle qui s'appelle Cléon et qui réussit le prodige de faire sourire, de faire rire même le très austère historien Thucydide par ses outrances. Bon, c'est de la démagogie, quoi, en fait. Alors ça, elle existe depuis très longtemps. Donald Trump, moi, parfois, me fait penser à, dans le monde romain, à Néron, vous savez, l'empereur... Bon, dont on réévalue aujourd'hui d'ailleurs les qualités d'homme d'État, mais enfin qui tout de même a laissé un souvenir mitigé. Nous verrons.
Le 8 décembre prochain, nous allons de nouveau pouvoir entrer dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, sans encore après l'incendie. Les Parisiens s'étaient rassemblés dans un rare moment suspendu au-dessus de la fourmilière quotidienne de la capitale pour observer ensemble les flammes ravager l'édifice. Quasi millénaire. Existe-t-il d'autres moments dans l'histoire du monde grec où toute une cité s'est arrêtée de tourner pour assister impuissante à une catastrophe?
Alors j'imagine que ça a bien dû arriver, mais je n'ai aucune source précise qui me vienne là. En revanche, j'ai pu comparer assez facilement l'émotion et l'élan de solidarité internationale et nationale qui s'est produit lors de la catastrophe de Notre-Dame avec la destruction du temple de Delphes qui abritait l'oracle, la Pythie, donc quelque chose de très très important vers 370 avant notre ère. Il se passe de grandes souscriptions internationales, une grande reconstruction, c'est assez médiatisé, voilà. Mais que les gens comme ça, on n'a pas d'infos en direct à l'époque, donc je ne peux pas dire que je n'ai pas d'exemple précis qui me viennent pour la dramaturgie assez... Je me souviens, vous savez, quand c'est arrivé, moi, cette histoire-là, je faisais cours en bas de la rue Saint-Jacques, dans l'amphi kiné, et mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer dans ma poche. Je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand je suis sorti à 20h, parce que j'ai cours de 19h à 20h, là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Voilà, donc c'est un moment assez, assez émouvant.
Un an après les attaques terroristes du 7 octobre contre Israël, pouvons-nous dire que l'antisémitisme surgit, ressurgit, atteint son paroxysme ? Jusqu'où faut-il remonter pour voir naître l'hostilité au peuple juif ?
Alors l'hostilité au peuple juif, il faut remonter à la fin de l'époque hellénistique, donc vers le 2e siècle avant notre ère. Les problèmes d'ailleurs juifs étant nés en réalité par suite de difficultés interne au monde juif, hein, où il y avait déjà des gens qu'on pourrait qualifier d'intégristes et d'autres très ouverts sur le monde. Et en fait, c'est un conflit entre ces deux courants qui a fait naître les problèmes. C'est très ancien tout ça. Alors en ce moment, je crois qu'on atteint tout de même un moment particulièrement dur de cet affrontement. Pourvu que nous en soyons débarrassés un jour.
Ça, c'est sûr. La poudrière du Proche-Orient semble sur le point de s'embraser, comme cela n'avait plus été le cas depuis plusieurs dizaines d'années. Pourtant, la cohabitation difficile entre les populations de l'actuelle région israélo-palestinienne remonte à l'Antiquité. Donc, faut-il comprendre que cette terre a toujours été au cœur des rivalités, selon vous ?
Oui, c'est un carrefour. Enfin, déjà à l'époque, bien avant l'Antiquité grecque, hein, l'ennemi héréditaire pour les Égyptiens, pour les pharaons, c'est ceux qui se situent juste au-delà de la Palestine, les Hittites, etc., etc. Ça, la bande de Gaza a toujours été un endroit terrible d'un point de vue géopolitique et en même temps un creuset de civilisation tout à fait extraordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est que ces gens peuvent s'étriper et à côté de ça, il y a des périodes de pacifiques où en fait ils sont extrêmement complices, ils font des affaires, ils troquent, etc. Il y a aussi l'antique rivalité entre les Grecs et les Phéniciens, hein, où ils se détestent mais ils ne peuvent pas se passer les uns des autres en gros.
Le gouvernement français est en prise avec la délicate question budgétaire qu'il aura beaucoup de mal à faire adopter au Parlement sans l'usage de l'article 49.3. Certains analystes lisent dans les résultats des dernières élections un essoufflement de notre régime démocratique. Comment le monde grec, berceau de la démocratie, a-t-il surmonté l'effondrement de ses systèmes politiques ?
Alors, décidément, vous suivez beaucoup mon actualité parce que dans le vendredi matin, dans les Échos, il y aura un papier sur l'orthodoxie budgétaire et le contrôle de la gestion dans l'Athènes antique. L'Athènes antique qui a connu 4 siècles de démocratie consécutivement, autant dire que nous sommes des enfants de cœur en la matière. Il ne faut pas se choquer si on voit aujourd'hui les gens s'enguirlander à la tribune, parce que c'était un peu comme ça que ça se passait à l'époque. La démocratie, c'est la dispute, c'est le conflit. Simplement, il faut qu'il soit régulé. Et surtout, il ne faut pas faire trop de politique politicienne, c'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre le sens de l'intérêt commun. La communauté, le koinon, c'était peut-être plus facile à conserver pour des communautés qui étaient de la taille d'un département français, parce qu'une cité grecque, c'est de la taille d'un département français pour les plus grandes, hein, c'est le cas d'Athènes. Je pense que nos hommes politiques feraient bien de relire Thucydide, Démosthène, et ce genre de choses. C'est le but de toutes mes chroniques quand j'en fais, hein, dans la presse, et de pas dire tout et n'importe quoi, pas brandir le tirage au sort comme un salut définitif, enfin... voilà. Bref, revenons aux sources.
Notre époque est située par plusieurs conflits, Ukraine, Proche-Orient notamment. De quoi rendre sceptiques les jeunes générations qui doutent de voir l'humanité progresser vers le bonheur ? La tendance est-elle à la dramatisation exagérée ? Est-ce que c'était mieux avant ? Le monde grec était-il moins chaotique ?
Alors, c'était mieux avant, Ça, c'est quelque chose qu'on entend, je pense, ou qu'on lit depuis qu'il y a des textes. Donc, il ne faut pas se laisser trop impressionner par ça. En revanche, oui, moi, je fais toujours, je tiens chaque année à faire cours aux étudiants de première année. Et je leur fais remarquer, depuis 30 ans que j'enseigne ici, que ma génération, et donc la leur, enfin maintenant c'est la deuxième génération, puisque j'ai les enfants d'anciens étudiants, nous avons beaucoup de chance parce que nous sommes la première génération européenne à ne pas avoir connu de guerre. Or, si vous regardez l'histoire universelle, et c'était comme ça pour les Grecs, la situation exceptionnelle, c'est la paix, et la situation normale, c'est la guerre. C'est comme ça, statistiquement. Non pas que ça me réjouisse, hein, mais c'est un fait. Donc, comme disaient les Romains, si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Je pense qu'il serait urgent, dans notre monde occidental très prospère, très de se réveiller et de, là encore, de se souvenir du passé et pour éviter le pire, et bien justement de le préparer.
Alors, vous parlez de guerre. Est-ce que, selon vous, l'histoire se répète-t-elle ? Avons-nous oublié les leçons du passé pour reproduire sans cesse les mêmes erreurs ?
Alors, l'histoire ne se répète jamais deux fois de la même manière exactement, mais en revanche, de façon qui s'apparente, se ressemble, se contourne. Il faut l'étudier toujours et encore pour mieux comprendre où on est et surtout où on va.
Et avant, nous avons une dernière question, que nous n'avons pas vue. Swan.
Oui, on voulait savoir que représente la Sorbonne pour vous.
Ah, oh, c'est un lieu merveilleux où je peux vivre de ma passion, la communiquer, la partager, recevoir en retour des marques de reconnaissance ou de satisfaction. Enfin, voilà, ça fait 30 ans que j'y suis. Je vais bien profiter des 8 ou 9 années qui m'y restent. Merci à vous, en tout cas.
Merci.
Merci. Merci.
Et donc, je rappelle, merci François Lefebvre, professeur d'histoire grecque à Sorbonne Université, le titre de vos derniers ouvrages, Histoire du monde grec antique, publié au livre de poche, et Histoire antique, histoire enseigne, aux éditions Passé Composé. Dans Cours d'honneur, on accueille les petits nouveaux comme les plus expérimentés, ceux qui veulent faire de la radio, et les nouveaux bons plans qu'ils nous proposent, c'est bien sûr dans la chronique des brouilles.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez la vedette, la table!
Aujourd'hui Alice, pour ta première chronique des brouilles, tu as décidé de t'aventurer en dehors du Paris intramuros et de nous faire découvrir à la place 5 adresses pour faire un tour à Saint-Ouen. Et tout ça est relié au fait eh bien, que Saint-Ouen, c'est tout près du campus de Clignancourt et que pour y aller, parce que tu y vas souvent, eh bien, il y a plein de choses à y faire.
Effectivement Thomas, donc situé à quelques pas du campus Clignancourt, Saint-Ouen regorge d'adresses intéressantes pour y passer une journée insolite. Voici, chers auditeurs, mes 5 préférés, testés et approuvés, pour vous encourager à y faire un tour à n'importe quel moment de votre journée, pourquoi pas entre deux cours par exemple. Pour la matinée, une balade matinale au calme du parc des Docks s'impose. Vous y croiserez peut-être les canards, les oies et les cygnes du parc. Le château de Saint-Ouen mérite aussi le coup d'œil durant la balade et la serre Wangari accueillera peut-être une exposition ou un autre événement culturel. Pour le déjeuner, passez par le restaurant de la salle d'escalade Blockout. Dès 11h, reprenez des forces avec les nombreuses options qualitatives et abordables du restaurant La Petite Sœur. Je conseille les plats à 9,50€, le croque végé et le cookie pour le dessert. Et pourquoi pas ne pas se laisser tenter par une séance d'escalade quelques heures après le repas. L'entrée à 16€ sans chaussons vous laissera aussi accès à un sauna et à une petite salle de sport. Mais si l'idée de l'escalade après le repas n'a pas su vous conquérir, vous pouvez toujours aller flâner dans les puces de Saint-Ouen pour une promenade digestive et peut-être une séance de chinage. Le plus grand marché d'antiquaires et de brocanteurs au monde en a pour tous les goûts. Meubles, décorations, art, livres, vêtements, bijoux, accessoires et bien d'autres encore. De quoi se laisser tenter ? Merci Swan pour la découverte. Pour une pause goûter au calme, je vous conseille Storyboard, une librairie café très intimiste, ouvert jusqu'à 19h30, que m'a fait aussi découvrir Swan et que j'adore. Parcourez la super sélection de livres et BD des deux gérantes et faites-vous une petite séance lecture au calme sur les banquettes à l'étage ou au tout petit coin café en bas, dont les prix sont très abordables pour la qualité du fait maison. Je recommande le brownie, le cookie et le chai latte. Enfin, pour le dîner, la communale est à tester absolument. Dans cet ancien hangar à l'ambiance vivante et chaleureuse, on retrouve plusieurs îlots avec chacun un type de cuisine pour dîner. Par exemple italien, taïwanais, végétarien. mais aussi un bar à vin, un bar à bière, un bar central où vous croiserez peut-être Swan, un bar à cocktails, une partie marché, des baby-foot et bornes d'arcade au fond. Il n'y a pas meilleur endroit pour finir votre journée à Saint-Ouen et rentrer chez vous avec le sourire.
Merci beaucoup Alice. Vous êtes bien sur Cours d'honneur. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris et sur Radio Sorbonne Université. J'ai besoin de quelqu'un pour me tenir fort, aussi fort que possible, dont l'amour ressemble à un rodéo. Qui sait exactement prendre le contrôle? Alors, qui veut pécho Dua Lipa sur Cours d'honneur? La chanteuse britannique et kosovare de 29 ans a livré son troisième album studio en mai dernier, Radical Optimism, dont le tube Training Season est issu. Bien sûr, ne la manquez pas parce qu'elle va nous faire le plaisir de revenir en France pour la deuxième fois en 2 ans. Oui, oui, les places sont parties en quelques minutes après avoir fait trembler les pierres des arènes de Nîmes en 2024, en juin dernier. Eh bien, elle va revenir cette fois pour faire trembler l'Arena Nanterre. Ce sera en mai 2025. Ne manquez pas son passage. Maintenant, dans Cours d'honneur, on se penche sur les anecdotes historiques, les détails, bien sûr, de la Sorbonne et de la vie de ses étudiants. C'est l'heure sur Radio Sorbonne du reportage.
C'est sans doute l'une des informations les plus capitales de ces dernières années.
Il est 20h, Moustique arrive à son bureau et là, c'est le drame.
Quoi de mieux qu'un bel endroit chaleureux et convivial pour revoir ses cours? Alors, si vous êtes en manque d'idées, pas de panique, Shirin est allée à la rencontre des étudiants afin de connaître leur lieu préféré pour réviser.
Un mois après la rentrée, place au moment tant redouté des étudiants, les révisions. Un moment pas si agréable qui demande du calme, de la concentration, de la motivation. Alors, pour embellir leur séance de brainstorming, chacun a sa petite astuce. Après les cours, pour souffler un bon coup, les étudiants se retrouvent au patio, café situé place de la Sorbonne, verre à la main et en plein débrief de leur journée, ils m'ont gentiment fait part de leur lieu de prédilection. Certains, comme Lily, Julia et Paul, choisissent des cafés, des terrasses, mais pas n'importe lesquels.
Mon endroit préféré, c'est sans doute, je dirais, le café cantine de Césure à Sancier. Parce que déjà, t'as pas la pression de tout le monde qui est un super focus sur l'ordi ou des livres. C'est beaucoup plus détente. Je peux parler avec mes potes. On fait des projets ensemble. C'est sympa, quoi.
Un peu pareil que Julia. Je pense que mon endroit préféré, c'est Césure à Sancier parce que du coup, c'est hyper chill. Ils ont vraiment un endroit qui est solidaire avec des cafés pas chers, des repas pas chers pour les étudiants. Il y a un peu de bruit, mais c'est hyper convivial. Il y a des prises pour travailler. Il y a un petit émaïs à côté, donc il y a du passage, mais ça fait pas forcément de bruit. Et il y a des petites musiques de fond, un peu comme si on travaillait dans un café. C'est très très cool.
Mon endroit préféré, c'est le Lithographe à Raspail. C'est un café hyper cosy. Les prix sont hyper abordables et c'est hyper calme pour travailler. Il y a plein d'étudiants qui viennent y travailler. C'est pour à la fois avoir une ambiance de travail, mais à côté quand même avoir une ambiance détente. C'est vachement sympa.
D'autres, comme Anatole, Mathilde ou encore Lumila, penchent plutôt pour les belles bibliothèques parisiennes.
J'aime bien réviser en général à la BNF. C'est un lieu où il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent et c'est assez calme. Il y a pas mal de ressources. C'est là où j'arrive à être le plus productive.
Mon lieu de prédilection, je dirais, pour réviser, c'est la BNF. C'est un endroit calme. Souvent, il y a des salles en hauteur où il n'y a pas trop de monde. On est un peu dans la pénombre. C'est pas comme d'autres bibliothèques où on entend tout le temps des gens se lever, faire des allers-retours. Franchement, si j'ai un conseil, meilleur endroit, la BNF.
Mon endroit préféré pour réviser, c'est aussi la BNF, mais pas la même. Moi, c'est à Bourse. Et je l'aime bien parce que, bon, déjà, c'est hyper galère d'avoir des places. Il faut vraiment y aller hyper tôt. Mais c'est un super bel endroit. Et je peux pas travailler quand il y a du bruit. Et chez moi, c'est beaucoup trop petit, j'ai même pas de sable. Et pour moi, c'est vraiment l'endroit vraiment parfait où on peut travailler.
Hermione et Marie-Nour font le choix du confort en révisant tout simplement à domicile, au chaud, café à portée de main.
Mon lieu de prédilection pour réviser, je dirais que c'est chez moi parce que j'ai du mal à me concentrer. Du coup, j'ai souvent besoin de calme et je trouve que c'est mieux parce que c'est un endroit qu'on connaît, du coup, on est plus à l'aise.
Mon endroit préféré pour travailler, ce sera sans doute ma salle à manger parce que au moins je sais que tout est accessible. J'ai des prises un petit peu partout, mes bouquins, mes documents. En principe, si je crie assez fort, bah, on me laissera tranquille pendant assez longtemps. J'habite avec toute ma famille, donc ça peut être un peu bruyant, il y a du passage, mais en échange, je gagne le café et les desserts, c'est gratuit.
Alexandra, elle, nous fait l'honneur de nous dévoiler son spot secret, niché dans l'opulent 16e arrondissement.
Pour être honnête, j'aime pas trop réviser dans des bibliothèques, dans des endroits fermés, clos. J'aime beaucoup réviser, en tout cas lire aussi dans des parcs, dans des endroits aérés, ça m'inspire beaucoup. J'ai un petit café secret que j'aime beaucoup, mais je vais le partager aujourd'hui. Aïe, 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 oulala, je me dévoile. Voilà. La maison Balzac dans le 16e arrondissement, c'est le plus bel endroit possible et inimaginable. Là, je prends le risque qu'il y ait du monde maintenant, mais c'est assez calme. Il y a beaucoup de petits vieux qui lisent. C'est très inspirant et je recommande, mais fortement. C'est apaisant. C'est un endroit où même quand il pleut, c'est beau d'y aller. Quand il fait beau, il y a un jardin, une très belle vue, merveilleux endroit.
Enfin, j'ai croisé deux étudiants, Maxime et Valentine, qui eux préfèrent des spots plutôt atypiques, qui vont sûrement vous étonner.
Moi, j'adore réviser pendant les cours, en fait. Je sais pas, la voix des profs m'apaise et donc j'aime travailler pendant les cours, pas forcément le cours que je suis en train de suivre, mais donc finalement je finis par m'en sortir comme ça. Et l'amphi Descartes est un super endroit pour travailler, donc voilà, moi c'est la voix des profs qui me font réviser.
Quand je révise des textes de théâtre, c'est dans la rue en parlant en fort, et quand je révise des cours, c'est dans une salle d'escalade près de Saint-Lazare qui s'appelle Climbing District. C'est une ancienne chapelle et on peut faire du sport, il y a des petites salles à côté où on peut travailler, et je sais pas pourquoi, mais réviser juste après avoir fait du sport, je trouve que c'est assez intéressant.
Ouais, c'est pas mal, ouais, c'est vrai, après avoir fait du sport, on peut mieux se concentrer. Toi, Chérine, alors, c'est où l'endroit où tu...
Alors moi, c'est à la maison, voilà, tout simplement, j'arrive pas, enfin j'arrive
rituel,
à...
peut-être, une position, un lieu
Dans ma chambre, dans mon bureau, tout simplement, ouais. Il n'y a pas de monde, en fait, il n'y a personne, donc ça me réconforte, voilà, tout simplement.
Vous autres, assis en tailleur sur le lit ou plutôt en cours, Lavinia ?
Alors, niveau paysage, moi je trouve qu'on surestime beaucoup trop les belles bibliothèques. Je crois qu'on travaille beaucoup mieux dans des endroits moches. Et j'aime bien travailler chez moi dans ma chambre parce qu'il n'y a rien à voir d'intéressant. Et j'ai juste, en fait, j'ai deux étagères avec mes bouquins et mon ordinateur. Et voilà, bah, il n'y a pas de distraction, il n'y a rien à voir, quoi.
C'est super triste. Écoute, on va t'envoyer, on va demander au Standard de t'envoyer un super poster de Radio Sorbonne pour un petit peu égayer.
C'est une bonne idée. Mais je ne vais pas le regarder, sinon ça va me distraire pendant les révisions.
Tu sais qu'il y a du mal à se concentrer pour réviser. Alice, Swan.
Oui, moi je. C'est pas très scolaire de ma part, mais je révise très peu, j'ai beaucoup de mal, donc voilà, ma moyenne est le reflet de ça. Mais pour réviser, quand je me motive à réviser, pareil, c'est un peu mon adresse secrète, mais j'ai envie de vous la partager. À 3 minutes de la Sorbonne-Mer, il y a un café qui s'appelle le Café Nuage. On paye 6 euros de l'heure pour avoir boisson chaude à volonté, gâteau à volonté, madeleine à volonté, fruits secs. Et tout le monde révise, tout le monde est dans sa petite bulle avec son ordinateur. Et c'est dans une ancienne chapelle, un peu moderne, très petite et cosy. Donc voilà, ne vous rouez pas dessus parce que sinon il n'y aura plus de place. Déjà que c'est très, très prisé, très hypé. Mais voilà, 6 euros de l'heure, c'est pas mal. Il y a même un tarif journalier à 25 euros la journée, je crois. Donc si tu viens pour manger toute la journée, imaginons que tu t'affames 2 jours avant. T'en as pour ton argent et pour... pour ton attention. J'arrive bien à réviser là-bas. Voilà.
Swan, toi aussi, ça pourrait t'attirer ce genre de formule-là où tu payes à l'heure plutôt que de payer à la consommation ?
Ah non, non, parce que comme je mets des heures à travailler, si je paye à l'heure, souvent je vais de 8h à 18h pour réviser quand je vais dans des endroits, donc ça revient un peu trop cher. Non, je dirais tout simplement, je trouve que la BU de Malesherbes, Elle est géniale, hein. Peut-être parce que j'y passe ma vie, mais je trouve qu'elle est calme, les gens sont calmes, en fait, ils sont respectueux des règles, et ça fait beaucoup. Et je sais pas, après sinon, chez soi, on est toujours mieux. Enfin, c'est difficile de travailler à côté de son lit, mais en même temps, voilà, c'est partout où on peut avoir du calme, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, mais bon, BU Malesherbes, ça reste top 1.
Ouais, c'est vrai. Après, moi, je suis pas d'accord avec Lavinia, parce que j'allais travailler dans la BIS. La bibliothèque inter-Sorbonne qui se trouve là sur le site historique et qui est particulièrement belle. En revanche, j'ai redoublé 2 fois ma L3, donc c'est peut-être pas le meilleur exemple à suivre, parce qu'effectivement, on allait surtout là-bas avec les copains pour aller draguer les jolies filles qui révisaient également.
Et, trop de distractions.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais elles étaient très nombreuses et c'était très sympa. J'étais persuadé que j'allais tomber sur la bonne et peut-être tomber sur une personne importante, puisque, eh bien, vous savez, dans Cours d'honneur, on aime bien parler non seulement de la vie des étudiants, mais bien sûr de raconter quels sont les personnages illustres qui ont fréquenté la BIS ou les couloirs de notre Sorbonne, peut-être vous, d'ailleurs, bientôt. C'est l'heure du Sorbonne en personne.
On prend la direction de la Sorbonne en personne.
La Sorbonne en personne. À chaque épisode, on vous dresse le portrait d'un personnage illustre de la Sorbonne. Et à présent, Lavinia va nous parler de Michel Foucault sous un jour nouveau. Plutôt que de le suivre dans son rôle prestigieux de professeur au Collège de France, elle va plutôt nous faire un portrait de ses années formatrices en tant qu'étudiant, une période moins reluisante de sa vie, mais tout aussi intéressante.
Mon cours au début de janvier, j'ai été malade, j'étais réellement malade. Je sais que il y a eu des bruits qui ont couru disant que c'était pour me débarrasser d'une partie de mon auditoire.
Vous venez d'entendre Michel Foucault durant l'un de ses derniers cours tenus en 1984. Il y mentionne des rumeurs selon lesquelles il aurait voulu se débarrasser de son auditoire. Cela peut étonner. Pourquoi un professeur voudrait-il s'en débarrasser ? Serait-ce par aspiration à la solitude, un désir de se consacrer davantage à la recherche, ou tout simplement à cause de tendances sérieusement misanthropes ? Toutes ces raisons puissent s'appliquer à Foucault, la vérité est bien plus simple. Ses cours étaient tout simplement devenus trop populaires. Il y avait tellement de monde qu'on s'engouffrait et on s'entassait comme on pouvait dans les auditoriums du Collège de France, avec des gens debout ou assis par terre, et cela pendant des heures. Pourquoi tout cet engouement ? Il faut dire que Foucault abordait des sujets tabous et innovateurs, allant de la folie à la sexualité, en passant par le pouvoir et les systèmes d'incarcération. Ces thèmes, loin du cliché du philosophe reclus dans sa tour d'ivoire, captaient l'intérêt du grand public. On l'a compris, Michel Foucault était un professeur populaire, une véritable rockstar intellectuelle de son époque. Mais qu'en est-il de son parcours étudiant ? Ses années formatrices ont été chaotiques, remplies d'embûches et de doutes, ou peu laissaient présager le brillant futur qui l'attendait. Voici donc le portrait, pour le moins mouvementé, du jeune Michel Foucault. « Né en 1926 dans une famille bourgeoise, le chemin de Foucault semble déjà tout tracé. Avec un grand-père chirurgien, un père médecin et un frère sur le point de suivre le même chemin, comment pourrait-il en être autrement ? Pourtant, Foucault ne colle pas trop dans ce tableau familial. Avec son profil littéraire, l'idée de faire des études de médecine lui fait horreur. Il préfère de loin se plonger dans ses livres d'histoire. Le jeune Foucault a un penchant pour les extrêmes, tant dans la réussite que dans l'échec. On peut dire qu'il ne fait pas les choses à moitié. Quand il excelle, il le fait brillamment, et quand il échoue, c'est de manière tout aussi éclatante. Très mauvais en mathématiques, il réussit pourtant haut la main en français, en histoire, grec et latin. Au baccalauréat, il réussit à peine à décrocher une mention assez bien, avec notamment 10 sur 20 en philosophie. Et pourtant, le voici quelques années plus tard en classe préparatoire à Henri IV à Poitiers, rêvant d'entrer à l'ENS. Cependant, il échoue aux épreuves écrites de l'ENS en 1945. Pour Foucault, cela signifie un retour déplaisant en prépa, cette fois à Paris. Ses camarades parisiens le perçoivent comme un provincial mal fagoté, un garçon sauvage, énigmatique, fermé sur lui-même. Désireux de prendre sa revanche après cet échec, il travaille d'arrache-pied, au point de s'en rendre malade. À la fin de l'année, Foucault grimpe dans les classements et devient un élève élite. Enfin, il est admis à l'ENS l'année suivante, en 1946. Pourtant, ces années à l'ENS ne sont pas toutes roses. Foucault est sévèrement dépressif, en particulier à cause de son homosexualité encore très mal acceptée à son époque par la société. Il est tellement au fond du gouffre qu'il considère mettre fin à ses jours. Un jour, un professeur le retrouve dans une salle de l'ENS, la poitrine lacérée par des lames de rasoir. Une autre fois, on le retrouve dans les couloirs en train de poursuivre un condisciple à un poignard à la main, rien que cela. En plus de cela, son tempérament irascible ne facilite pas son intégration parmi les autres étudiants. Il se dispute avec tout le monde, se fâche, se montre agressif, à quoi s'ajoute une tendance assez marquée pour la mégalomanie. Il faut dire que Foucault aime mettre en scène le génie dont il se croit porteur. Si bien que très vite, il est presque unanimement détesté. Bref, Foucault passe pour être à moitié fou.
Le côté obscur, je perçois en toi.
Et la Sorbonne dans tout cela, me demandez-vous ? Il y a en effet un lien direct entre Foucault et la Sorbonne. Il y obtient notamment sa licence de philosophie en 1948. Et qui sait, peut-être a-t-il arpenté les mêmes sols que les étudiants d'aujourd'hui dans le bâtiment de la Sorbonne-Mère, se tenant près de la galerie Richelieu, pas très loin d'ailleurs du studio où nous enregistrons à présent cette émission. C'est également à la Sorbonne qu'il obtient une licence de psychologie en 1949. Et oui, pour la petite histoire, il existait à l'époque une chaire de psychologie à la Sorbonne qui n'existe plus aujourd'hui. En parlant de psychologie, l'intérêt de Foucault pour ce domaine envahit le domaine privé, si bien qu'il fait passer à nombreux de ses collègues des tests de Rorschach. Vous voyez ces tests où on demande d'interpréter des images dans des taches d'encre ? Eh bien, selon les mots de Foucault, il a envie de savoir ce que ses condisciples ont dans la tête.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
À présent, j'aimerais tester l'attention de notre auditoire. Vous rappelez-vous l'extrait du cours de Foucault qui a été lancé au début ? Son allusion à la maladie n'est pas anodine. Ce cours a eu lieu en février 1984. Foucault est décédé le 25 juin 1984, à peine 4 mois plus tard, suite à des complications du sida. Il a été parmi les premiers à en être touché. À seulement 57 ans, sa vie a été tragiquement écourtée. Pourtant, sur le plan académique, Michel Foucault a su tirer parti de son temps. Ses œuvres marquantes telles que « Les mots et les choses »,« Surveiller et punir » et « Histoire de la sexualité » ont profondément influencé la philosophie et la sociologie. Et lorsqu'on regarde la progression de son parcours, on ne peut que l'admirer pour avoir réussi à sublimer ses défis personnels en un projet académique remettant en question les normes établies par notre société et nous laissant un héritage intellectuel qui perdure encore aujourd'hui.
Merci Lavinia, vous êtes bien dans Cours d'honneur. On espère que le parcours de Foucault vous inspirera. Gageons qu'on puisse marcher nous-mêmes dans ses pas. Tout de suite, sur Radio Campus Paris, on fait une petite pause avec Isia, son troisième album, une voix de sirène pour la vague ondulante. Ça date de 2015.
Soudain comme un mirage.
La vague de Isia dans Cours d'honneur, la vague qui vous emportera jusqu'à la fin de cette émission, puisque nous sommes en train d'approcher tranquillement eh bien de la fin de cet épisode 4. Mais avant, bien sûr, dans Cours d'honneur sur Radio Sorbonne, eh bien on lit le courrier de nos auditeurs. Allez, on a un peu de courrier.
À chaque fois qu'il revient, il m'apporte quelque chose. Il m'écrit.
Ah oui, les cartes postales.
Ces cartes postales qu'ils nous écrivent pour nous raconter les meilleurs lieux de notre université. Cette fois-ci, eh bien, on va se pencher sur un véritable carrefour de la vie étudiante, la place de la Sorbonne, un coin emblématique qui respire bon la culture, l'effervescence universitaire. Imaginez-vous flâner sous les arbres, entouré des célèbres bâtiments de l'université avec la fontaine en son centre qui invite à un petit moment de pause entre les cours. En tout cas, Maria Florencia vous y amène avec notre carte postale de la semaine.
Bonsoir, je m'appelle Christiana, j'ai fait une période de recherche en philosophie à la Sorbonne. Je suis une étudiante italienne, là je suis étudiante établissement partenaire. L'année dernière j'ai fait un Erasmus ici à la Sorbonne, du coup je connais déjà un petit peu. Et là je suis en train de boire un coup avec des copines, on est chez les patios. Et je pense qu'ici les coupes ils sont pas trop chers, c'est pour ça qu'en fait c'est vraiment très très rare de trouver une place. Place de la Sorbonne, pour moi c'est un petit coin de bonheur. Devant moi il y a un bâtiment, ouais. Il y a la librairie, il y a des fontaines, il y a des arbres, et là ils sont un peu jaunes, un peu oranges. Il y a les couleurs un peu de l'automne quoi, qui arrivent. Et il y a un peu du vent, du coup là ils bougent un petit peu. Et les arbres commencent à perdre un peu leurs feuilles. À côté de moi, il y a des autres tables, il y a des gens qui boivent, il y a un autre resto, une brasserie sur la droite. Il y a vraiment une atmosphère chill ici. J'aime tellement la librairie Vrin. C'est une librairie philosophique vraiment historique d'ici. Je trouve toutes les nouveautés en philo, tous les livres de mes profs. Elles sont tout le temps là, toutes les nouvelles sorties. Du coup, c'est vraiment le temple pour tous les étudiants en philo. Et c'est trop bien, vraiment. Toute fois que je rentre, c'est incroyable. J'y passe vraiment des heures et des heures. C'est vraiment trop, trop bien. Et à droite, il y a la chapelle de la Sorbonne, qui est incroyable. C'est fou penser de boire un coup comme ça, un mardi soir, en regardant ça. Je me sens vraiment trop chanceuse. Je pense que c'est un endroit vraiment important ici pour la vie étudiante. Moi, toutes les fois qu'on se donne un rendez-vous avec mes copines, mes camarades, on se dit on se retrouve à la place de la Sorbonne et après on rentre ensemble. On se retrouve pour un petit café. Pour moi, c'est trop pratique parce que comme je bouge tout le temps avec les Vélib, il y a un arbre pas loin et normalement, il y a plein de places. Et du coup, je peux juste déposer mon vélo là-bas et après descendre et boire un coup. Dans les bars où on est, il y a l'happy hour qui convient à beaucoup d'étudiants. C'est jusqu'à 20h, du coup il faut qu'on se dépêche un petit peu. Normalement, où je viens ici après les cours, j'ai pas beaucoup de cours. Du coup, et les mardis soirs, j'ai un cours qui termine à 19h. Du coup, on va direct boire un coup ici à Place de la Sorbonne. C'est notre petite routine du mardi et bah, on se régale quoi.
Ah, c'est trop fort.
Trop fort pour cette carte postale signée Maria Florencia, la place de la Sorbonne. Savez-vous qu'elle a un deuxième nom autour de la table? Quel serait le deuxième nom de la place de la Sorbonne?
Place Richelieu.
Non, mais bien essayé, pas mal l'intuition, Lavinia.
Place du Patio.
Place du Patio, parce que c'est le bar où on va souvent terminer la soirée.
J'ai aucune idée.
C'est la place Samuel Paty. Elle a été renommée après l'assassinat de l'enseignant de Conflans-Sainte-Honorine. Donc c'était il y a 4 ans maintenant et elle a officiellement deux noms, mais c'est vrai qu'on la connaît mieux sous le nom de la place de la Sorbonne. Non, ça vous inspire la place de la Sorbonne? Vous la traversez régulièrement? Vous la trouvez apaisante vous aussi?
Ouais, je la traverse souvent quand je suis en retard. Mais elle est très belle.
Bon, eh bien écoutez, c'est ainsi que nous dirigeons vers la fin de l'épisode 4 de la saison 3. 4 Non, la fin de la saison. De l'épisode 3 de la saison 4, Cours d'honneur. Ravi de vous avoir de nouveau accueillis dans notre studio de Radio Sorbonne. Merci de nous avoir suivis, bien sûr. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Radio Sorbonne Université existe sur Instagram, sur les plateformes de podcast et dans ta fac aussi. Merci bien sûr à toute l'équipe. Merci Swan.
De rien, avec grand plaisir. Et puis bonne soirée à tous.
À dans deux semaines. Merci Chérine.
Merci à vous. Mercredi, pas prochain l'autre.
Mercredi prochain, pas l'autre, c'est ça exactement. Maria Florencia, merci d'être venue.
Merci beaucoup. Hein, on s'y voit dans deux semaines.
Tout à fait, c'est ça. Lavinia, toujours un plaisir de t'avoir parmi nous pour tes bonnes histoires.
Merci Thomas, merci à tous et à bientôt.
Bienvenue à Alice, donc nouvelle recrue de l'équipe. Ça va, tu restes?
Je me tâte encore. J'ai beaucoup aimé, je pense que je reviendrai.
Eh bien, tu as ta place ici, vous aussi d'ailleurs. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous nous contacter sur les réseaux sociaux, on vous répondra bien sûr. Merci au service culturel pour son soutien. Merci à Radio Campus Paris pour le partenariat. On se retrouve donc dans deux semaines, on vous l'a dit, puisque Cours d'honneur est en mode bimensuel, un épisode toutes les deux semaines. Alors venez nombreux d'ici là. Restez curieux, soyez fous et n'oubliez pas, tout est possible. Ciao.
Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est
la cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Ou.
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.